question qui devrait intéresser tous nos auditeurs. Qu'est-ce que les croyants vont faire une fois rendus au ciel? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui est un avant-goût du ciel, aujourd'hui même, à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je pense que tous les croyants seront encouragés au cours de cette émission. Et s'il y en a parmi vous qui n'êtes pas encore des enfants de Dieu, je pense que les réponses à nos questions vont vous donner le goût de le devenir. Alors voici les questions qu'on va poser au livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Où est-ce que le quartier général de la Terre est situé? Est-ce que la Trinité entière est assise sur le trône de Dieu? Est-ce que Dieu se laisse parfois emporter par sa colère? Faut-il être purifié pour servir Dieu? Est-ce que le lion de Juda est bel et bien Jésus-Christ? Est-ce que les quatre êtres vivants mentionnés dans l'Apocalypse sont réellement des descriptions de Jésus? Quelles sont les activités des créatures de Dieu dans le ciel? Qu'est-ce que les croyants feront une fois rendus au ciel? Restez avec nous, nos réponses ne vont pas tarder. Le Seigneur est sur le point de nous enseigner les Saintes Écritures par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, quelle joie de recevoir ta parole quotidiennement. Quelle joie d'avoir cette liberté de l'entendre prêcher, de la mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour ce gouvernement qui nous donne cette liberté. C'est grâce à toi, Seigneur, on le reconnaît. Et on veut se servir de tout ce que tu nous enseignes pour ta gloire, mon Dieu, pour te faire connaître à ce monde perdu. Alors touche nos cœurs par ta parole aujourd'hui. Nous t'aimons, nous t'adorons. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, nous poursuivons notre étude du chapitre 4 de l'Apocalypse, le trône de Dieu. Lisons Apocalypse, chapitre 4, verset 2. « Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Aussitôt, dénote le bref espace de temps. Une des caractéristiques de l'enlèvement de l'Église sera la rapidité de son exécution. » Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, l'apôtre Paul nous annonce que l'Église en ce temps-là sera enlevée en un instant, en un clin d'œil. Nous avons même dans notre langage de tous les jours cette expression « en un clin d'œil » pour parler d'une action accomplie très rapidement. Un psychologue a déjà mesuré le battement d'un œil. Ou pour être plus précis, il a mesuré le temps pris par une paupière pour s'ouvrir. Il a mesuré avec beaucoup de précision le temps pris pour ce geste. Un millième de seconde. Nous avons donc une idée assez exacte du temps que prendra l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi l'apôtre Jean emploie l'expression « aussitôt ». Cela veut dire « immédiatement » ou « tout de suite ». Je fus saisi par l'Esprit. Il s'agit évidemment du Saint-Esprit, car notre propre esprit ne peut pas nous saisir de la sorte. Le Saint-Esprit remplit donc son mandat conformément à la promesse de Jésus dans l'Évangile selon Jean chapitre 16, le verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. » Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Comme la porte, le trône était déjà là depuis longtemps, mais l'apôtre Jean le voit pour la première fois. Son attention est attirée par l'élément central de la scène. Ce trône représente la souveraineté et le règne de Dieu. Il tient tout l'univers dans sa main. Le quartier général de la Terre et de l'univers n'est pas situé à Paris, Londres, New York, Moscou ou ailleurs sur la Terre. Il se trouve au ciel. Ce symbole se retrouve un peu partout dans les Écritures. Nous le voyons dans le psaume 11, verset 4. L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. D'autres passages emploient cette image, comme le psaume 47, verset 8, le psaume 97, verset 2, le psaume 103, verset 19, et surtout Ézéchiel, le prophète, chapitre 1, les versets 26 à 28. Il s'agit du trône de Dieu le Père, et notre Seigneur Jésus-Christ est assis à sa droite. Dans le psaume 110, verset 1, « Le Père éternel ordonne à son Fils, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Cette parole est reprise dans le Nouveau Testament. Jésus s'en sert d'abord pour confondre les pharisiens dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 41 à 46, et plus tard dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3 et chapitre 12, verset 2. Elle sert à affirmer la divinité et la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ. Actuellement, le trône de Dieu est un trône de grâce, mais après l'enlèvement de l'Église, il deviendra un trône de jugement. Jésus a quitté l'endroit où il intercédait auprès du Père en faveur de son Église. Il prend maintenant place à un endroit où il jugera le monde. Une incomparable splendeur. Apocalypse, chapitre 4, verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Un débordement de couleurs chatoyantes remplit nos yeux. Celui qui est assis possède un éclat semblable à des pierres précieuses. Nous n'obtenons pas un portrait clair de Dieu. Il n'a jamais été photographié. Notre attention est dirigée vers celui qui est assis sur le trône. Même s'il s'agit bien de Dieu le Père, nous devons comprendre que ce trône appartient au Dieu trinitaire. Nous distinguons d'ailleurs les trois personnes de la Trinité à cet endroit. Le Saint-Esprit au verset 2 et 5, Dieu le Père au verset 3, et le Fils au verset 5 du chapitre 5. La Trinité au complet est assise sur le trône de Dieu. Or, l'apôtre Jean ne pouvait pas voir une forme précise sur le trône. Il percevait seulement un brillant éclat, semblable à celui des pierres précieuses. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. La pierre de jaspe était la dernière pierre identifiée sur le pectoral du souverain sacrificateur, comme on peut le voir dans Exode, chapitre 28, verset 20. Plutôt, au verset 15, on précise que ce pectoral représente le jugement. Mais à l'avenir, cette pierre constituera le premier fondement de la muraille de la Nouvelle Jérusalem, et la muraille elle-même sera construite en jaspe, comme nous le verrons au chapitre 21, les versets 18 et 19. Cette pierre possède plusieurs couleurs, mais elle tire surtout sur le pourpre. Elle est parfois identifiée comme un diamant. La pierre de sardoine, elle, constitue le sixième fondement de la muraille de la Nouvelle Jérusalem, comme il est écrit au chapitre 21, verset 20. Pline rapporte qu'on trouvait cette pierre près de la ville de Sardes, dont elle a retenu le nom. Sa couleur est d'un rouge ardent. Elle est la première pierre sur le pectoral du souverain sacrificateur. Le mot traduit ici par « arc-en-ciel » vient du grec « iris ». Bien qu'un arc-en-ciel soit composé de plusieurs couleurs, le vert semble prédominer ici, car il ressemble à l'émeraude. Dans Ézéchiel, le prophète, chapitre 1, verset 28, la lueur venant du trône ressemble également à un arc-en-ciel. Ce dernier est une image de la gloire de l'Éternel. Dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 9, les versets 13 à 15 relatent qu'après le jugement du déluge, Dieu a créé l'arc-en-ciel comme preuve de sa promesse de ne plus jamais détruire la terre par l'eau. L'arc-en-ciel paraît encore ici, avant le jugement de la grande tribulation. Il nous rappelle qu'un déluge ne sera pas utilisé pendant ce jugement. Cela nous rappelle le prophète Habacuc, chapitre 3, verset 2. « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Mais, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Même dans son jugement, Dieu ne se laissera jamais emporter par sa colère. Elle sera toujours mesurée. Les 24 anciens. Lisons Apocalypse, chapitre 4, verset 4. « Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis. » revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Dans le monde actuel, voué à l'évolution et à la consommation, tout ce qui est vieux et passé date est considéré comme inutile. Par extension, le mot vieillard est associé à la sénilité et à l'improductivité. Il possède maintenant un sens péjoratif. Par contre, dans les temps anciens, il n'en était pas ainsi. Donc, afin de bien comprendre le sens du mot « vieillard » utilisé dans notre verset, nous devons retourner aux sources. Dans le texte original grec, le mot est presbytéros. À l'intérieur du peuple d'Israël, ce mot désigne les dirigeants du peuple qui étaient d'abord les juges de l'Ancien Testament et ensuite les membres du Grand Conseil ou le Sanhédrin. Dans l'Église du Nouveau Testament, ils dirigent les églises. Ces presbytérois étaient souvent sélectionnés parmi les hommes avancés en âge car on croyait que leur expérience leur donnait la sagesse. Ils étaient choisis pour représenter l'ensemble de l'Église. Presbytéros est parfois mieux traduit par « ancien », comme dans Tite, chapitre 1, verset 5. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Dans notre passage, ces 24 anciens représentent l'ensemble de l'Église à partir de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Donc, à ce moment, l'Église est montée au ciel, revêtue de vêtements blancs. Le vêtement blanc représente la justification du pécheur par le sang de Jésus-Christ, comme nous le verrons plus tard au chapitre 7, verset 14. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Les couronnes d'or sont le signe que l'Église règnera avec Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie ?» Les couronnes sont aussi des récompenses, comme on peut le voir dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8, ainsi que dans l'épître de Jacques chapitre 1 verset 12 et dans 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Elles seront remises lors du jugement de Dieu sur les croyants. Ce jugement, différent de celui des hommes rebelles, est appelé « Béma » dans la Bible. Apocalypse, chapitre 4, verset 5. « Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. L'apôtre Jean, saisi par l'Esprit Saint, voit des éclairs et des coups de tonnerre. Les éclairs et les coups de tonnerre précèdent généralement l'orage à venir et donnent un avant-goût de sa force. » On peut presque voir les nuages du jugement s'accumuler au-dessus de nos têtes. Mais parmi les éclairs et le tonnerre, on entend aussi des voix. Il ne s'agit donc pas d'un orage naturel qui se prépare, mais d'un événement sous le contrôle direct de celui qui est assis sur le trône. Les sept esprits de Dieu sont une image du Saint-Esprit, comme nous l'avons vu précédemment. Les quatre êtres vivants, verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Une mer de verre renvoie à la mer de métal fondu du temple de Salomon, décrit dans 1 Roi chapitre 7, les versets 23 à 37. Dans les deux cas, elle représente la purification des péchés. Encore une fois, l'emphase n'est pas placée sur la miséricorde, mais sur le jugement de Dieu. Ceux qui sont appelés à le servir doivent être purifiés, comme on peut le voir dans Matthieu chapitre 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et l'Épître aux Hébreux chapitre 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Cette purification est maintenant accessible à tous ceux qui reçoivent personnellement Jésus-Christ, car, selon 1 Jean chapitre 1, verset 7, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13 nous enseigne « Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. » Cette mer calme évoque la position ultime de l'Église après son enlèvement de la terre. Elle n'est plus la victime des tempêtes de la vie, ni ballottée par les vagues. Les quatre êtres vivants. Le mot du texte original grec est « zoa ». Nous en tirons le mot « zou ». Ces êtres ne sont cependant pas des bêtes sauvages. Nous verrons plus tard une bête sauvage au chapitre 13. Mais ces êtres sont d'un genre différent. Le mot « être » reste délibérément vague, car l'emphase n'est pas placée sur la nature de ces créatures, mais sur le fait qu'elles sont vivantes. Il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière, précise le texte. Encore une fois, nous voyons une image semblable dans l'Ancien Testament. Ces êtres vivants ressemblent aux anges d'Ézéchiel, chapitre 1, les versets 5 à 10, chapitre 10, verset 20, ainsi que chez le prophète Ésaïe, chapitre 6, versets 2 et 3. Leurs nombreux yeux indiquent leur vigilance et leur acuité. Verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Certains auteurs identifient ces êtres à l'Évangile qu'ils représentent. Bien que cette interprétation soit souvent contestée, je crois qu'elle est exacte. Le premier être vivant est semblable à un lion. L'Évangile de Matthieu représente le Seigneur Jésus en tant que roi. Il est né, il a vécu et il est mort en tant que roi. Il est ressuscité en tant que roi et il reviendra en tant que roi. Tout ce qu'il accomplit dans le premier évangile, il l'accomplit en tant que roi. Dans le livre de la Genèse, chapitre 49, versets 9 et 10, le patriarche Israël avait annoncé que la tribu de Juda était comme un lion, que le roi viendrait de cette tribu et que les peuples lui obéiraient. Nous verrons dans Apocalypse chapitre 5 verset 5 que ce lion de Juda est identifié. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ. Le second être vivant est semblable à un veau. Il s'agit d'un animal domestiqué afin de servir l'homme. Dans l'évangile de Marc, Jésus est présenté en tant que serviteur. On ne trouve aucune généalogie dans cet évangile. Si vous embauchez quelqu'un pour tondre votre gazon ou laver la vaisselle, vous n'êtes pas intéressé par son pédigree. Vous voulez simplement savoir s'il peut faire le travail. Et l'évangile de Marc présente Jésus comme un serviteur. Le troisième être vivant a la face d'un homme. L'évangile de Luc nous présente Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Son humanité y est soulignée. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ici, c'est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui est soulignée, comme on peut le voir dans l'évangile de Jean. Revenons à l'Apocalypse. Lisons chapitre 4, verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Nous avons déjà mentionné les anges du sixième chapitre d'Ésaïe. Ils avaient également six ailes, et eux aussi entonnaient un chant de louange. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. On se rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ s'est lui-même identifié d'une manière semblable au début de notre livre, au chapitre 1, verset 8. Je vous en refais la lecture. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Nous pouvons donc affirmer que ces quatre êtres vivants sont les quatre descriptions de Jésus-Christ énoncées dans les quatre évangiles de la Bible, la parole vivante. Une éternité pour adorer. Apocalypse, chapitre 4, les versets 9 à 11. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Nous assistons ici à une grande scène d'adoration dans les cieux. Cependant, nous devons être bien conscients qu'il s'agit d'un acte continu. En d'autres mots, la louange et l'adoration sont les éternelles activités des créatures de Dieu dans le ciel. Celles-ci adorent le Créateur en tant que Dieu trinitaire, Saint, Saint, Saint. Cela nous conduit à une question intéressante. Pourquoi voulons-nous aller au ciel? Il existe plusieurs mauvaises raisons. Pour jouer de l'harpe, pour rester assis sur un nuage pour l'éternité, ou pour ne pas aller en enfer. Or, Ce verset nous indique clairement comment nous occuperons notre temps. Nous adorons Dieu. Cela devrait nous faire réfléchir, car si nous trouvons cette activité monotone et pas très passionnante ici-bas, comment pouvons-nous être sûrs qu'il en sera autrement pour l'éternité? Car nous passerons beaucoup de temps au ciel à adorer Dieu. Ils jettent leurs couronnes devant le trône. Les couronnes de l'Église sont déposées aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ en signe de soumission et d'adoration. Plusieurs pensent qu'ils obtiendront une couronne rendue au ciel. Mais à vrai dire, je crois que la seule personne digne de porter une couronne au ciel est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous jetterons notre couronne à ses pieds. Car tu as créé toutes choses. Dans sa révélation de Jésus-Christ, Walvoord précise que les êtres vivants rendent gloire, adoration, honneur et louange à celui qui est assis sur le trône à cause de qui il est. Toutefois, les 24 anciens qui représentent l'Église l'adorent non seulement à cause de ses attributs, mais à cause de ce qu'il a fait. Ils l'adorent en tant que créateur, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. En d'autres mots, l'Église s'élève de sa petite terre qui fait partie de la création de Dieu, et elle se joint à l'adoration céleste parce que Dieu a créé la terre. Et l'Église est la partie de la création terrestre qui a reconnu son Créateur. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu a créé l'univers et particulièrement la terre, car ils font partie de son plan. J'avoue ne pas comprendre beaucoup de choses à propos de son plan ou à propos de son univers. Mais je sais qu'il a créé toutes choses selon sa volonté. Il détient un contrôle absolu sur sa création. Il est normal de lui rendre hommage puisqu'il a créé la terre. Je suis heureux qu'il l'ait fait et qu'il m'ait créé aussi. Je suis très heureux de faire partie du plan de Dieu. À la prochaine émission, nous verrons que le chapitre 5 de l'Apocalypse continue de nous présenter l'Église à ce moment rendue dans les cieux avec Jésus-Christ. En tant que chrétien, je crois sage de nous familiariser avec les lieux, puisque nous y passerons l'éternité. Si nous voulons aller au ciel, nous devrions savoir en quoi cet endroit consiste. Dans les chapitres 4 et 5, donc, de l'Apocalypse, nous trouvons l'assemblée des croyants au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa promesse que nous retrouvons dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, les versets 2 et 3. « Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Toutefois, au chapitre 5, nous assisterons du haut des cieux aux événements précédant la grande tribulation sur la terre. Tout comme le trône était un des sujets principaux au chapitre 4, le lion et l'agneau, qui représentent tous deux Jésus-Christ, seront les thèmes principaux du chapitre 5. Jésus est à la fois le lion souverain et l'agneau sauveur. Il contrôle parfaitement la suite des événements comme il l'a toujours fait. Mais qu'en est-il de votre vie, chers amis? Est-ce qu'il la possède? Est-ce que vous lui avez confié tout votre être, corps, âme, esprit, afin qu'il puisse s'en occuper pleinement? Vous savez qu'il est l'auteur de la vie. À vous de lui faire confiance en ce qui a trait votre vie. Oui, votre court passage ici-bas, vous pouvez l'implorer en tant que sauveur et seigneur de votre existence. L'avez-vous fait? Vous pouvez le faire maintenant. Chers amis, nous allons nous préparer à la prochaine émission en lisant le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, les versets 1 à 9. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à vous tous bonne lecture.
Merci, Régent. Mes amis, avez-vous le goût de passer l'éternité au ciel? Après l'enseignement qu'on vient de recevoir, je ne sais pas qui n'en aurait pas le goût. On a eu un aperçu de ce qu'on va voir au ciel, de la beauté de cet endroit où Dieu prépare une place pour tous ceux qui lui appartiennent. Quelle joie d'avoir la certitude de passer l'éternité à cet endroit et surtout de savoir qu'on sera dans la présence du lion de Juda, Jésus lui-même. celui qui est devenu l'agneau de Dieu quand il est venu sur cette terre pour être sacrifié pour nos péchés. Mes amis, pensez-y. On va adorer Dieu d'éternité en éternité. J'ai bien aimé la remarque de Régent qui a dit qu'on devrait réfléchir sur ce point d'adoration. Il a dit que si on trouve cette activité monotone et pas très passionnante ici-bas, comment pouvons-nous être sûrs qu'il en sera autrement pour l'éternité, puisqu'on va passer beaucoup de temps à adorer Dieu au ciel? Et toi, mon frère, toi, ma sœur, comment va ton temps d'adoration, seul, chez toi ou en famille? Comment aimes-tu les temps d'adoration à ton église? Aimes-tu chanter des louanges? T'arrive-t-il dans ton quotidien de louer Dieu quand tu vois un beau coucher de soleil ou quand tu es en vacances au bord de la mer et que tu vois combien cet océan est vaste à un point où il rencontre le ciel à l'horizon? T'arrive-t-il d'exprimer ton adoration envers ce Dieu tout-puissant qui a tout créé, même toi, pour sa gloire? Est-ce que tu t'émerveilles devant les diverses espèces d'arbres, de plantes, d'animaux, d'êtres humains et tout ce que ton œil peut voir? Sinon, mon ami, je t'encourage à demander à Dieu de te montrer ce qui t'en empêche. Parce qu'en attendant le retour glorieux de Jésus, il n'y a rien de plus extraordinaire que de contempler les merveilles de Dieu et de partir le cœur joyeux pour annoncer aux autres ce qu'il a fait pour nous, afin qu'eux aussi puissent partager cette joie d'adorer ce Dieu qui a tout créé et qui a aussi pourvu un plan pour sauver l'homme pécheur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel Dieu merveilleux! J'aimerais terminer, mes amis, en citant les paroles d'un chant que la majorité des croyants connaissent. Alors voici, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit, la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oui, tu es bon, Seigneur Dieu. Merci pour ta création. Merci d'être mon créateur. Merci d'être mon Seigneur, mon Sauveur. Merci d'être mon Dieu. Merci pour l'éternité que je vais passer avec toi, dans ta présence merveilleuse.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison.
Oui.
De nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur! Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.